Je vais remercier les SILAC et les centres historiques miniers de l'EVARD pour cette invitation. Et avant de développer les thèmes de mon exposition, je voudrais faire quelques réflexions au sujet du paysage industriel, du paysage minier en particulier. Et, Bertrand Lemoine l'a dit auparavant, c'est une notion qui n'est pas facile à faire accepter. Le concept de paysage industriel, c'est un paysage qui doit encore s'affirmer auprès d'un public plus vaste. Et, Louis Bergeron nous l'a dit, disons, les choses que je voulais dire en partie ont été dites par mon ami Louis Bergeron, et donc j'en profiterai pour marcher plus vite. Mon souci était celui d'évaluer si dans les grands débats sur les paysages en général, où il y a tous les risques que M. Bergeron a évoqués, l'élargissement des sens, des significations, le fait que ce terme est employé dans la langue commune. Mais je me suis dit, il y a des modèles, il y a des choses qui sont utiles pour éclaircir cette notion. Et là aussi, je suis toujours dans la trace de M. Bergeron parce que Roger Dion, dans la définition des paysages ruraux, peut-être nous a donné l'exemple le plus célèbre d'une définition du paysage comme objet scientifique. À partir des différentes permutations d'un certain nombre d'éléments, les groupements d'habitats, les dessins et la taille des champs, etc., il a obtenu des différentes typologies de paysages, les paysages d'open fields ou les paysages à champs enclos. Alors là, c'est vraiment l'exemple d'une méthode et on pourrait se demander si dans cette méthode il y a des outils, des éléments qui nous peuvent aider. Et donc, je crois qu'il ne faut pas aller trop loin dans cette démarche. Michel Dézé va parler demain, si je ne me trompe pas, et dans son ouvrage assez récent sur les paysages miniers, il a énoncé quatre critères que j'utiliserai pour l'analyse des paysages miniers en Toscane. Les éléments qu'il a choisis sont la position du gisement en rapport à la surface du sol. Moi, j'ai laissé un peu adapté à mon exposition. Le suivant, c'est l'orographie du site, selon qu'il s'agit d'un territoire en pente ou en plaine. Après, l'organisation productive, selon les différents systèmes de traitement du minerai extrait, l'organisation du stockage du blé, et finalement, les rapports entre les sites productifs et les contextes extérieurs, à savoir aussi les logements, les villages miniers qui naissent tout autour. Et donc, venons maintenant à les cas dont je voulais parler. La Toscane. Disons que la Toscane, c'est l'exemple d'une activité millénaire, une activité d'extraction millénaire. Aujourd'hui, en Toscane, on trouve... il y a des zones qui ont été déclarées parcs miniers. Il y en a déjà quatre. L'île d'Elba, où il y a un parc... L'Elba. Après, il y a les collines métallifères dont je vous parlerai, et le parc musée de la Miata où on a exploité les mercures, etc. Donc, les collines métallifères comprennent cette municipalité Et disons, ces territoires miniers pour lesquels a été élaboré un master plan pour sa mise en valeur, ces territoires, c'est un exemple de stratification historique parce que là, on trouve des témoignages qui remontent à l'âge étrusque, et après il y a 4 étapes pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Je dois, parce que le temps court, et donc je dois simplifier ces moments historiques. Donc là, vous voyez en différentes couleurs les sites concernés par les différents âges d'exploitation. Je vais plus en vitesse, j'essaye un peu de faire une synthèse. Auprès d'un lac, le lac de la Cesa, il y a un établissement étrusque du VIe siècle. Ce qui est remarquable, il ne s'agit pas d'une nécropole, comme il arrive très souvent, mais dans cet établissement, on trouve les traces d'une activité métallurgique. Il y a des cavités où l'on trouve encore des morceaux de minerais. Et donc, ce n'est pas beaucoup pour décrire ces paysages, mais il y a tous les éléments, c'est-à-dire les ressources naturelles, les bois, l'eau, les minerais, il y a tous les éléments d'une activité qui va évoluer dans les siècles qui suivent. La conquête romaine en 386 avant Jésus-Christ conclut cette expérience. Il faut attendre 1300 années pour qu'elle reprenne au Moyen Âge avec l'essor des masses maritimes. Qui est un des centres qui a donné élan à cette activité. Et disons, on a continué avec les anciennes fouilles étrusques, mais ce qui est remarquable à cet âge-là, c'est le système des châteaux miniers qui se sont constitués à partir du XIe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle. Dans ces châteaux miniers, il y a des sites, des endroits spécialisés pour l'activité métallurgique des minerais extraits dans les territoires environnants. Le plus célèbre, c'est celui de San Silvestro. Il est très connu aujourd'hui. Là, dans les dessins, vous voyez une reconstruction. Et là, c'est ce qu'on a, disons, mis en valeur après des campagnes prolongées des fouilles. Mais il y en a d'autres aussi, Rocchette Pannocchieschi, je vais vite. Là, on voit les ruines qui restent, et Cugnano, et il y en a d'autres encore. Donc, cette activité, comme j'ai dit, se termine dans le XVe siècle, et là aussi, il y a un long sommeil de l'activité minière, parce que pendant 400 ans, il n'arrive presque rien. Là, c'est le fait que cette activité est connue différentes reprises, ça nous fait réfléchir sur la notion des progrès techniques. C'est un processus qui n'a rien de linéaire, de cumulatif, parce que les savoirs qu'on a conquis, on les perd et on doit les réapprendre avec beaucoup d'efforts. C'est ça l'histoire que les collines métallifères nous confirment. À l'âge moderne, disons, il n'y a pas d'activité minière, il y a plutôt une activité métallurgique qui a été entamée par les grands ducats des Medici. Cosimo Ier, il s'est assuré le monopole des mines de l'île d'Elba Et au lieu du paysage dispersé qui était celui du Moyen-Âge, on assiste à la création d'un paysage de concentration. Disons, les activités métallurgiques se concentrent dans certains endroits. Parmi elles, les plus importantes sont Valpiana et Acesa, et on voit là aujourd'hui ce qui reste. Il s'agit des sites qui ont travaillé pendant 300 ans, mais qui ont profité d'aucune innovation technologique. Et à terme, cette absence les a condamnés. Au XIXe siècle, les Lorraines, avec Léopold II, ont réalisé un des centres les plus avancés à l'époque pour l'activité sidérurgique, Follonica, où, avec l'assistance des architectes français, on a réalisé les établissements de San Leopoldo, que vous voyez dans une photo d'époque et dans une photo actuelle. Et Follonica, c'est un exemple de développement durable, ante litteram, parce que, disons qu'on avait dispersé dans les territoires des phases du cycle technique qui auraient dû rester en proximité. Alors, ce qui semble un paradoxe du point de vue de la logique économique, on les comprend si l'on considère les soucis d'épargner les ressources naturelles en bois. Il n'y avait pas de coque, on utilisait les bois, et donc il fallait distancier les établissements pour éviter d'épuiser les produits. Et venons à l'âge moderne, le XXe siècle, apparaît finalement les paysages miniers contemporains. On trouve tous les éléments, on trouve les chevalements, on trouve les stériles, on trouve les équipements. Alors, quels sont les caractères de ces paysages ? D'abord, une confrontation directe avec les paysages pré-industriels. Vous voyez là, il y a les chevalements et les troupeaux. Dans les photos suivantes, on voit les cultivations tout autour des chevalements. Là, le deuxième caractère qui marque la différence entre ces paysages miniers de la Toscane et les paysages miniers du nord d'Europe, la France, la Belgique, etc., je disais le rôle de l'orographie. Là, on est dans un paysage collinaire, des montagnes, et donc il faut une adaptation des établissements à cette morphologie. En plus, on profite de cette morphologie parce qu'on organise tous les cycles de traitement par un modèle de haut en bas pour profiter, disons, d'une certaine facilité dans les passages du minerai d'une phase à l'autre. On voit les exemples, la mine de Gavorrano, Pozzo Roma. On voit les suivants, Pozzo Rostan qui est à côté, à Niccioleta. Il n'existe presque plus rien de ce que vous voyez maintenant. Et là, il y a une autre mine encore, celle de Ravi, qui est une mine, on peut dire, en édition de poche, une mine miniaturisée, parce que dans un petit espace, on trouve tous les éléments qui composent un paysage assez complexe. À gauche, il y a la mine, au centre, les villages miniers, et à droite, les centres historiques qui faisaient un peu de points d'appui pour tous les systèmes. Donc, dans ces paysages, il n'y a pas de terrils. Il n'y a pas de terrils parce qu'on utilisait les stériles pour les remblais, ou autrement, on trouve des formations qui sont assez belles, parce que c'est un produit de l'érosion, et c'est un paysage assez particulier, sont les résidus du traitement du cuivre. Et sur ce qui concerne les rapports avec les bâtis, on n'a pas les villes minières qu'on trouve ici. Les villages les plus importants, c'est celui-là de Niccioleta, qui est une sorte de paysage littéraire parce qu'il est lié à un ouvrage de Cassola et Bianciardi, les mines de Nicioleta, qui est un des premiers exemples d'enquête sociale sur la condition des mineurs et qui a une valeur littéraire tout à fait extraordinaire. Donc, j'essaie d'aller vers mes conclusions. Quelle est l'utilité de ces paysages, de voir les sites miniers en paysage? C'est une question qu'on doit se poser parce que Alain Roger, dans son court traité sur les paysages, remarquait par exemple que les paysans ne considèrent pas les terroirs comme paysages. Les paysages exigent une distance et les paysans ont un rapport de proximité avec les terrains. Et je crois les mêmes discours on peut les faire pour les mineurs. Moi, j'en connais pas mal dans cet endroit. Je discute assez souvent avec eux. Ils peuvent bien comprendre qu'il s'agit là d'un patrimoine. Ils comprennent un peu moins qu'il s'agit d'un paysage. Là aussi, parce qu'ils ne disposent pas de la distance nécessaire au regard esthétique pour évaluer un paysage. Alors, les paysages, on se demande, c'est une notion des savants, c'est une notion des spécialistes, et en tout cas, je crois qu'il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour différentes raisons. Voyons les avantages de l'utilisation de cette notion. La première, les paysages posent sur un principe de totalité, d'indivisibilité. Monsieur Bergeron l'a bien dit, c'est par les paysages qu'on peut déplacer les soucis de la conservation d'un objet individuel à un contexte plus élargi. Les paysages nous donnent les moyens pour réaliser cet élargissement. Le deuxième, par les paysages, j'arrive à comprendre les systèmes de relations entre la production et l'environnement. Et c'est les paysages qui me donnent aussi les moyens pour évaluer ce qui sont les effets pervers de la production minière. S'il n'y avait pas les paysages, j'aurais du mal à considérer des biens culturels, des témoignages, je ne sais pas, les terrils par exemple, ou ici en Toscane, les couches des boues. En Sardaigne, Messier Otelli, qui va parler après-demain, vous dira qu'il y a des couches de déblais qui sont des biens classés. Donc les effets pervers, ceux qui ont produit, qui ont altéré les territoires, à distance, aujourd'hui, on les considère comme des témoignages très importants. Et la dernière chose, c'est les paysages qui mettent en marche, disons, une fonction narrative. Les paysages nous comptent son histoire. Et donc, à ces moments-là, les paysages nous disent beaucoup plus de ce qui nous fait voir. Les paysages visibles deviennent un morceau, une partie d'un paysage plus vaste qui est une construction sociale et culturelle. Donc, quelles sont les menaces sur les paysages, sur ces paysages de la Toscane? Je vais vite. La première sont les interventions qu'on doit faire pour la dépollution et pour la mise en sécurité. Il y a des protocoles qui concernent ces genres d'interventions qui font tout disparaître. La meilleure dépollution, c'est celle qui rase au sol. La meilleure mise en sécurité, c'est les bouchons en béton qu'on fait dans les puits. Donc, il faut vraiment développer des méthodologies tout à fait différentes. Le deuxième problème, on a vu, c'est un paysage très, très souvent, ce qu'on voit, c'est un paysage des ruines, un paysage archéologique. les Etruscan Mines, un exemple d'absurdité économique. On a réalisé cet établissement pour le faire marcher seulement pour 7 ans. Après, tout est fini. Alors, vous voyez, on voit vraiment une belle combinaison entre nature et ruines. Qu'est-ce qu'on fait avec les ruines? Là, il y a les choix entre le respect, l'intégrité, ou plutôt la réinterprétation, s'il faut les réintégrer. Et disons, ce passage me permet d'arriver finalement à la conclusion. Disons que quand on voit un paysage comme ça, on imagine un paysage fossile, un paysage achevé, qui nous a dit presque tout ce qu'il pouvait nous dire. Alors, je vois bien qu'aujourd'hui, le problème de la conservation de ces paysages ne peut pas se donner en termes d'un respect absolu. Disons, le paysage n'est pas une architecture. Pour l'architecture, on peut bien admettre une conservation absolue. Dans le cas d'un paysage, il y a toujours un système qui évolue. Et donc, les paysages, comment pourrais-je dire, les paysages nous appellent à faire des projets. Surtout, un paysage nous appelle à décider. Je voulais terminer avec cette invitation. Je voudrais seulement vous rappeler ce que nous a dit Monsieur le Président Percheron ce matin. Il nous a fait vraiment le parcours qui a été fait ici dans les bassins miniers Nord-Pas-de-Calais à partir des années 60 avec Chaban Delmas, si je ne me trompe pas, pour arriver jusqu'à l'intervention, le nouveau Louvre de Lens. Alors, l'Havre, quand je me suis dit un paysage qui appelle à décider, je me suis dit que dans les bassins miniers, il y a 30 ans qu'on a décidé. Peut-être à l'époque, on n'était pas tellement conscient de la valeur paysagère de ces territoires. Aujourd'hui, on est finalement conscient avec la démarche qu'on est en train de faire auprès de l'UNESCO, mais je dois admettre que dans l'époque passée, on a toujours agi comme si l'on croyait dans ces paysages de la décision. Je vous remercie de votre attention.